Chapitre 4. La chose de tuer la femme. Il y avait eu deux actes de violence commis dans l'espace de quelques minutes sur deux points très différents, quoique nous trouvions les deux corps de délit réunis sur le même banc du boulevard. Les événements avaient marché pendant ces deux jours, comme le disait tout à l'heure la comtesse Corona. La portion de notre sujet, qui est la comédie de famille entre M. le baron Schwartz et sa femme, touchait presque à son dénouement, et tout ce qui dépendait de cette lutte allait être réglé dans le sens des volontés de la baronne, à moins qu'une influence étrangère et plus forte ne fît verser la balance à la dernière heure. M. Schwartz, tout entier, à la suprême partie qu'il jouait avec une sombre résolution, laissait aller tout le reste. Il y avait 10 à parier contre 1 que ces jeunes amours, qui sont dans cette histoire de velours un très modeste accessoire, le roman de Michel et d'Edmé, le roman aussi de Blanche et de Maurice, allaient se dénouer le plus simplement du monde par une double union que rien désormais ne traverserait. Mais était-ce bien la volonté de M. Schwartz, ou même celle de la baronne, qui tenait lieu de destin dans ce petit monde où s'agitent nos personnages? Edmé avait passé une journée heureuse, mais pleine de fièvre, car sa santé, à peine remise, se brisait sous ses émotions. Blanche et sa mère étaient venues dans la pauvre retraite de Madame Leber. Un long, un suave baiser avait servi d'explication entre la baronne et Edmé. Une toilette de bal fraîche et charmante s'étalait sur sa simple couchette. Pourtant, quelqu'un manquait. Michel n'assistait pas à cette douce fête. Longtemps après le départ de ses hôtes, Edmé, qui l'attendait, s'était jeté tout habillé sur son lit, où l'engourdissement de la fatigue l'avait prise. À une heure qu'elle n'eut point su préciser, on frappa doucement à sa porte. Elle se leva, joyeuse, et croyant que c'était enfin Michel. Il faisait nuit, la lampe baissait, prête à s'éteindre. Ce fut M. Bruno qui entra. « Michel ne viendra pas, » dit-il, répondant à l'expression de désappointement qui était dans le regard de la jeune fille. Puis il ajouta, « On peut bien prendre 48 heures de l'existence d'un homme pour lui sauvegarder toute une vie heureuse. »« J'ai confiance en vous, » murmura Edmé, avec une sorte de craintif respect, « confiance absolue. Je vous dois la vérité. Michel ne vous aime pas. » M. Bruno se mit à sourire, ce qui rarement lui arrivait. « Je crois bien, » répondit-il, « chaque fois qu'il veut se rompre le cou, je le gêne. » Il reprit le ton sérieux et demanda « Votre bonne mère dort-elle ? » Sur la réponse affirmative d'Edmé, il remonta la lampe et pénétra dans la chambre à coucher de la vieille dame. Edmé le suivit et le vit avec étonnement, qui enlevait le voile de gaze couvrant le brassard ciselé. En même temps, son regard s'étant tourné vers la fenêtre, elle remarqua que toutes les lumières de la maison étaient éteintes. « Il est donc bien tard, » murmura-t-elle. La pendule d'un voisin sonna à 3 heures. « Je ne choisis pas mes moments, » dit M. Bruno, avec sa tranquillité froide. « D'ailleurs, il faut que la bonne dame retrouve ceci à son réveil. Demain, on lui en offrira une belle somme. « Que voulez-vous faire ?» demanda Edmé, voyant qu'il plaçait le brassard sous sa houppelande. « Vous allez le voir, ma fille, car vous m'accompagnerez, » répliqua M. Bruno. « Il manque quelque chose à ce joujou-là, et qui vous doit un peu de bien pour tant de mal qu'il vous a fait. Nous nous rendons ici près, à la forge d'un vieil ami à moi. Dans une heure, vous rapporterez le brassard. Venez. » Edmé se coiffa aussitôt et jeta son mantelet sur ses épaules. La forge voisine de l'estaminet de l'épicier était tout allumée et un ouvrier attendait. On sait comment étaient fabriqués ces gantelets pleins que nous nommons des brassards. La carapace des crustacés dut en fournir la première idée. M. Bruno, dont Edmé ne soupçonnait pas l'habileté, démonta la pièce en un tour de main et l'ouvrit comme on dépaisse un homard. Le forgeron avait préparé trois séries de franges formées de tiges aiguisées. Monsieur Bruno les riva à l'intérieur en tournant leurs pointes libres, inclinées légèrement par rapport au plan des anneaux, vers la poignée du gantelet. Puis il remonta la pièce aussi lestement qu'il l'avait désarticulée. Ce fut tout. Nous savons comment Edmé et lui se séparèrent. Edmé allait d'un pas pénible et las, suivant le trottoir méridional du boulevard. Elle n'éprouvait point de frayeur dans cette solitude. L'accès de fièvre était venu. Elle se sentait la tête vide et cherchait à saisir de vagues pensées qui semblaient se jouer d'elle. À la hauteur du café turc, un homme la croisa. C'est à peine si elle fit attention à lui. Il n'en fut pas de même de l'homme par rapport à elle. Aussitôt qu'il l'eut dépassé, il fit un geste de vif étonnement et s'arrêta court, la regardant s'éloigner. Cet homme semblait entre deux âges. Il était vêtu d'un vaste paletot dont le collet se relevait jusqu'aux oreilles. Il avait de larges favoris noirs et des lunettes bleues. Prenant une brusque détermination, il revint sur ses pas, affectant l'allure chancelante d'un ivrogne. Il atteignit Edmé et, la saisissant par la taille avec brutalité, il balbutia d'une voix avinée « Nous cherchons donc comme ça de mignonnes aventures, toutes seules, la nuit dans les rues, mon petit amour !» Edmé, éveillé de sa torpeur en sursaut, esquiva son étreinte et recula de plusieurs pas en chancelant. L'homme aux lunettes bleues avait senti le brassard sous son mantelet. Si ce n'était poussé l'invraisemblable jusqu'à l'absurde, nous penserions que le brassard était précisément l'objet convoité par son audacieuse galanterie, car il resta un instant comme stupéfait de cette découverte. Et en réalité, s'il connaissait Edmé Leber, il pouvait bien connaître le brassard. Son hésitation fut de courte durée. Il bondit en avant, donnant à sa voix les accents oxydés et rauques de la complète ivresse. « Oh, tu fais des manières !» s'écria-t-il, titubant sur ses jambes et agitant ses bras en des gestes extravagants. « Tu dédaignes un simple citoyen parce qu'il n'a pas de carrosse vas-tu finir? C'est un Français qui t'offrait son cœur. Ah bah les gendarmes, vive la ligne, on va te faire un sort malgré toi, mademoiselle !» C'était de l'ivresse à la Frédéric Lemaître, un peu trop bien faite. Mais notre pauvre Edmé n'était pas expert juré en fait d'ivresse. En outre, elle n'avait pas le sang-froid qu'il fallait pour juger. Elle fut prise de cette instinctive épouvante qui étreint la poitrine des enfants à l'aspect d'un danger inconnu. Elle poussa des cris étouffés, continus, des cris de folle, et s'enfuit sans savoir où elle allait. L'homme aux lunettes bleues la suivit, sans plus se soucier de son rôle d'ivrogne. Il savait de science certaine qu'elle ne se retournerait pas. D'ailleurs, il avait une autre préoccupation. Son regard perçant passait par-dessus ses besicles et interrogeait le lointain du boulevard pour voir si nul garde-chasse ne menaçait son cours. Le boulevard était solitaire, aussi loin que l'œil pouvait le porter, et les pauvres cris d'Edmé s'étouffaient de plus en plus. Elle traversa la chaussée. Peut-être avait-elle vaguement l'idée de revenir à son point de départ pour trouver la protection de Monsieur Bruno. Quant à l'homme aux lunettes bleues, son plan n'avait rien d'incertain. Il voulait pousser son gibier vers les terrains vagues qui y bordaient le nouveau boulevard Beaumarchais. Bien sûr qu'il serait là maître absolu de la situation. Il n'eut pas besoin de faire une si longue route. Edmé trébucha une première fois en traversant le pavé, puis elle s'affaissa bientôt après, privée de sentiments, sur le trottoir, aux abords de la galiote. Charitablement, l'homme aux lunettes bleues la souleva dans ses bras, qui étaient robustes, et la transporta sur le banc le plus voisin. Il l'y laissa, sans s'inquiéter autrement de l'état où elle pouvait être, et s'éloigna d'un bon pas, en portant le brassard sous sa redingote. Ce fut ainsi qu'il arriva à l'estaminet de l'épicier, où sa venue fut le signal de la retraite de nos amis Échalot et Similor. Quand ceux-ci furent dehors et qu'on eut prudemment refermé les portes du sanctuaire, l'homme ôta ses lunettes bleues d'abord, puis ses larges favoris noirs, découvrant ainsi la mine résolue de ce grand monsieur Lecoq. Voilà une histoire, dit-il en exhibant son butin. J'avais pris la peine de crocheter, comme un simple guerrier, la porte d'une voisine pour me procurer ce joujou-là. Voyons voir, qu'est-ce que c'est que ça, patron? Demandèrent quelques voix curieuses. Ça, répondit monsieur Lecoq, c'est 4 millions en billets de banque à partager entre les bibis. Les yeux s'écarquillèrent. Mes petits amours, reprit monsieur Lecoq, on ne peut pas m'accuser d'avoir peur de me compromettre avec vous, eh? Le colonel était de l'ancienne école, moi je suis de la nouvelle. Se faire adorer, voilà la meilleure cuirasse. Et tenir un nez coulant au cou des chéris, riposta Picpus. Monsieur Lecoq lui adressa un signe de tête approbateur et répliqua en riant, « Ah, tu sais ce que parler veut dire, toi, bonhomme !» Tout en causant, il examinait minutieusement le brassard qu'il tournait et retournait dans tous les sens. « Régner à la fois par la force et par l'affection, voilà le programme de la nouvelle école, dit-il. Chacun de vous sait bien qu'il n'y a pas mèche de faire tort à papa, mais quand même la chose serait loisible, on ne trouverait pas un seul Judas dans l'honorable société. Eh, les amours !» Une bruyante acclamation ponctua cette harangue courte mais éloquente. Corona n'est pas encore venu, demanda monsieur Lecoq en remettant sous son paletot le brassard, en apparence intact. Sur la réponse négative qui lui fut donnée, son regard fit le tour de la galerie. Ah, toujours propre et bien couvert, cocotte, reprit-il. Avance ici. Connais-tu monsieur Bruno, le marchand d'habits? Parbleu, fit notre élégant voyageur de la voiture de Montfermeil. Tu vas sortir et aller jusqu'au boulevard. Sur le premier banc, tu trouveras une jeune demoiselle évanouie. Tu lui porteras les secours que l'humanité commande, puis tu la reconduiras chez elle galamment, sans te permettre aucune familiarité inconvenante. Elle habite la maison même où je respire. En chemin, tu t'arrangeras de manière à rencontrer un agent quelconque de l'autorité. La jeune personne racontera son cas avec la candeur particulière à son sexe et à son âge. Toi, tu témoigneras que tu es arrivé au moment où le voleur s'évanouissait dans l'ombre, et tu fourniras le propre signalement de monsieur Bruno, les 4 doigts et le pouce. Monsieur Bruno en mange, fit observer Picpus. « Il fait mieux, répliqua monsieur Lecoq, il est de la grande table. N'essaye pas de voir plus loin que le bout de ton nez, bonhomme. Et je t'annonce que ton rapport sur l'entresol de l'hôtel Schwartz te vaudra 10 000 livres de rente, c'est réglé. Toi, cocotte, en route, tes empreintes seront payées juste le même prix. » Nous avons laissé la voiture de la comtesse Corona galopant vers la porte Saint-Martin. On était en train d'opérer de grands travaux vis-à-vis du théâtre, à cet endroit qui était la honte du boulevard et que la gaieté populaire désignait plaisamment sous le nom de l'écluse Saint-Martin. Le cocher Battista, beau gaillard, brun comme un sang mêlé, n'avait pas entendu ce cri qui avait précipité la course de monsieur Bruno dans le faubourg du Temple. À moitié endormi qu'il était, à la hauteur du banquet d'Anacréon, au moment où les obstacles accumulés sur la voie ralentissaient forcément la marche du coupé, il fut éveillé en sursaut par une violente oscillation imprimée à sa voiture. Il se retourna, la portière était ouverte et un homme fuyait vers le boulevard du Temple. Battista appela sa maîtresse, elle ne répondit pas. Il descendit de son siège et trouva dans le coupé la comtesse Corona qui était étendue en travers et morte. C'était un fidèle serviteur. Instinctivement, il remonta sur son siège et poussa son cheval à la poursuite du fugitif, qui, sans nul doute, devait être l'assassin. Celui-ci avait disparu. Après une course désordonnée de quelques minutes en droite ligne, l'idée vint à Battista qu'un secours était encore possible, peut-être. Il arrêta sa voiture en face de la galiote et retira de la caisse le cadavre de la comtesse. Il le porta jusqu'au banc voisin où déjà Edmé Leber était couché. La vue de cette autre morte porta au comble le désarroi de sa pensée. Il eut peur, au premier bruit de pas, il prit la fuite. Il faut renoncer à peindre la confusion qui emplit la cervelle du malheureux échalot à la vue de cette scène de carnage. Tuer la femme lui avait semblé longtemps la chose du monde la plus simple et la plus naturelle. L'aspect de ces 2 cadavres, car il prenait aussi Edmé Leber pour morte, dissipa instantanément les fumées du punch et remplaça son ivresse par une sorte d'atonie. De grosses larmes lui vinrent aux yeux. Il tomba sur ses deux genoux et joignit les mains en répétant « On a tué la femme, on a tué deux femmes !» Similord pressa le pas, il croyait à une plaisanterie. Puis, apercevant la comtesse, « Tiens, dit-il en arrivant, la petite marchande de musique. »« Cré coquin, la belle robe !» Échalot avait dégagé Saladin et le pressait sur son cœur. « Ah, c'était une riche, murmura-t-il. Ah, est-elle dans son pauvre sang? Ah, ça a peut-être un petit enfant à la maison. Ah, les sans cœur. Ah, regarde donc ces belles petites mains-là. Est-ce doux, ces cheveux? » Il lança par terre Saladin, qui n'en pouvait mais, et qui protesta par une clameur désespérée. Mais Échalot ne l'écoutait pas. Il retroussait ses manches, promenant autour de lui un regard chevaleresque. « Comme quoi, dit-il, je jure ma parole que je vas descendre le maladroit qui a commis cet épouvantable drame. »« En voici une qui se récupère, » s'écria Similor, en soulevant la tête d'Edmé qui venait de pousser un soupir. Échalot mit ses mains sur son cœur et dit, « Ah, si on pouvait leur sauver la vie au prix de notre salut !» Allez, le ridicule n'y fait rien, et c'était de belles larmes que le pauvre grotesque avait sur la joue. Deux hommes venaient de se rencontrer non loin de là et se cachaient à l'angle de la maison qui terminait le boulevard au lieu-dit La Galiote. L'un d'eux était Cocotte, l'autre était l'assassin que nous avons vu s'introduire dans le coupé de la comtesse Corona pendant que le cocher Batista dormait. Celui-là était un grand jeune homme pâle, à la tournure élégante, au visage admirablement beau, mais ruiné et dégradé par une profonde chute morale. « Ma femme était forte, dit-il à son compagnon qui sortait de l'épicier. Je me suis donné beaucoup de mal pour rien, mais elle n'avait pas le scapulaire. » Cocotte tremblait. Ce n'était pas un meurtrier. « Tu sais, reprit le comte, qui réparait froidement le désordre de sa toilette, à faire de la jalousie, au fond. Je me suis vengé. Ce sont ces deux-là qui auront fait le coup. » Il montrait Échalot et Similor. « Impossible, répliqua Cocotte. « Parce que, ils en mangent. Eux, après, quand il s'agit d'un maître. Et ce sont les agneaux de Toulonnet-l'Amitié pour la grande affaire, acheta Cocotte. » « Alors, dit le comte, je vais voyager pour ma santé, que le diable emporte l'amitié. » Il tourna l'angle de la galiote et disparut dans la rue des fossés du temple. Au moment où Cocotte s'approchait du banc, Edmé reprenait ses sens. Échalot riait, parmi ses larmes, à voir la vie colorer lentement ses pauvres joues. Il donnait à l'enfant de carton des baisers convulsifs. Similor, dont l'émotion, également sincère, était moins profonde, sentait s'éveiller en lui de coupables pensées. C'était ce Similor, sous son costume fait pour déplaire, une étonnante incarnation de ce Christ de l'enfer que les poètes ont baptisé Don Juan. Ravagé par le besoin de séduire, il donnait déjà à ses mollets la pose la plus avantageuse et repassait un choix d'insanité cueilli au paradis des folies dramatiques. La vue de Cocotte fut un coup de théâtre. Similor craignit en lui un rival. Échalot était prêt à défendre la victime jusqu'à la mort. Seulement, la chose des mystères avait sur eux une si magnifique influence qu'au premier mot de Cocotte, ils obéirent, chargeant le corps de la comtesse sur leurs épaules. Préalablement, Cocotte s'était assuré du décès, non sans prendre à la morte sa broche, sa montre et ses pendants d'oreille. « Danger de trahir la mécanique, » prononça-t-il en guise d'explication, avec une terrible emphase. « Elles l'ont mangé. » Il n'est pas superflu de faire observer que ces divers événements, si longs à raconter, furent en réalité très rapides, et que le banc du boulevard n'eut pas son funèbre fardeau pendant plus de 10 minutes. Selon l'habitude, dès que la trace du crime eut disparu, une patrouille de la garde nationale, représentant la vigilance publique, passa. Cocotte remit Edmé Leber entre les mains loyales de ses gardiens de la cité. Il raconta qu'il était arrivé trop tard pour s'opposer à la fuite du malfaiteur et, corrigeant les souvenirs confus de la jeune fille, il dessina un signalement complet de M. Bruno, le marchand d'habits. Hein, voilà un bien honnête garçon, déclara le caporal. Et l'ordre règne à Varsovie, ajouta l'officier. Ma foi, il faut bien arriver à le dire, Échalot et Similor étaient pendant cela au bord du canal. Cette pauvre belle comtesse Corona glissa sous l'eau, avec un pavé au cou. N'empêche, murmura Échalot, regardant d'un œil mélancolique l'eau qui allait se calmant, n'empêche que ni toi ni moi, Amédée, nous n'avons trempé nos mains innocentes dans les bijoux du cadavre. Saladin est trop petit pour garder la mémoire de ces instants. Ah, c'était une belle brune, s'exclama Amédée, je la reverrai bien souvent dans mes rêves. Échalot jeta Saladin sous son bras gauche et médita. Il y aurait un moyen d'échapper à l'association infernale dont la honte de l'échafaud nous attend peut-être au bout. C'est de s'engager avec courage dans la gendarmerie départementale.